Il est 8h.
Il y a beaucoup d'hôteliers sur Paris, beaucoup d'indépendants qui dorment dans leurs hôtels. Donc on a l'impression d'être dans une prison pour pas sombrer quoi. Mais à quel prix ?
L'hôtellerie en crise, 46 000 emplois déjà détruits, un hôtel sur deux toujours fermé à Paris. Même les palaces sont en crise, enquête à suivre. Le ministre de la Santé annoncera-t-il de nouvelles restrictions sanitaires ce soir ? En tout cas, la méthode du gouvernement va changer, promis, juré, concerté. Les maires de 5 grandes villes s'entretiendront avec le Premier ministre dans la journée. Nous verrons aussi comment en Israël, c'est l'armée qui fait respecter le confinement. Reportage embarqué. Dans ce journal, Engie accepte de vendre Suez à Veolia, mais demande encore un délai. Le taxi volant, 70 euros la course d'un quart d'heure, sans pilote entre Roissy et le centre de Paris. Et puis, lui avait un trou d'air d'inspiration. David Fuenquinos s'est mis à raconter la vie d'une femme croisée au hasard. Histoire incroyable dont on se demande si elle est vraie. Il vous le dira, cet auteur, dans 10 minutes.
Pour l'invité politique d'Europe Matin, il est urgent de renouer avec l'autorité. L'avocat Thibault de Montbrial, fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, auteur de « Osons l'autorité » aux éditions de l'Observatoire. À 8h15, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Théoriquement, Paris a basculé en zone d'alerte maximale comme Marseille. Les trois critères qui comptent sont au-dessus des seuils que le gouvernement a lui-même fixés. Pour autant, on ne peut pas préjuger de ce que dira Olivier Véran ce soir à 18h.
Les arbitrages peuvent évoluer jusqu'à la dernière minute, d'autant plus que le gouvernement ne veut pas subir une nouvelle fronde des élus locaux. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour. Oui, effectivement, pas question de revivre la polémique marseillaise avec des élus locaux qui dénoncent le manque de concertation entre l'État et les collectivités. Le Premier ministre Jean Castex va donc s'entretenir avec les maires de Paris, Lyon, Lille, Grenoble puis Toulouse. Objectif, travailler sur les mesures les plus efficaces possibles, dixit Matignon, en accord avec les villes pour éviter la fronde. Donc, il faut plus anticiper la concertation avec les élus, reconnaît un conseiller de l'exécutif. Alors, les réunions de ce matin se traduiront-elles par un tour de vis supplémentaire ce soir ? Pas forcément, à en croire Matignon et le ministère de la Santé. Rappelons que des mesures comme la fermeture des bars à 22h ont été mises en place à Paris lundi, il y a donc 3 jours seulement. Et même s'il faut rester prudent, vous le disiez Mathieu, car tout peut bouger jusqu'au dernier moment, l'idée, eh bien, c'est plutôt de laisser une chance à ces dernières décisions pour qu'elles produisent leurs effets, quitte à devoir frapper plus fort la semaine prochaine si la situation ne s'améliore pas, mais en ayant discuté bien en amont avec les élus locaux.
Les informations d'Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Alors on entend cette prudence et la volonté du gouvernement de procéder par étapes. Mais on sait aussi que tout le secteur de l'hôtellerie-restauration retient son souffle.
Nous voulions ce matin nous pencher précisément sur le sort des hôtels. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Eux aussi sont ébranlés par la crise, tout autant que les bars et les restaurants.
Eh bien oui, pas de touristes étrangers, plus de déplacements professionnels, même les seniors sont absents cette arrière-saison. Résultat, depuis le début de l'année, 46 000 emplois ont été détruits, 30 000 sont menacés d'ici la fin de l'année. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les hôtels à très bas prix en province, qui logent souvent les ouvriers du bâtiment. Le pire, c'est à Paris, près d'un hôtel sur deux est toujours fermé. Ceux qui restent ouverts, ce sont souvent les hôtels familiaux, dans des conditions très difficiles, selon Delphine Prigent du Groupement National des Indépendants.
Il y a beaucoup d'hôteliers sur Paris, beaucoup d'indépendants qui dorment dans leurs hôtels. Ils ne peuvent pas prendre d'équipe pour le très peu de chambres qu'ils ont. Une chambre, deux chambres par soir, c'est impossible. Donc ils doivent faire le service de jour, le service de nuit, le service petit déjeuner, le service ménage. Ils n'ont pas le choix que de rester dans leurs hôtels. Donc on a l'impression d'être dans une prison et pour pas sombrer quoi. Mais à quel prix ?
Pas mieux pour les palaces et 4 étoiles qui enregistrent seulement 12 à 15% de taux d'occupation. Selon les professionnels, un hôtel sur 5 est menacé de faillite en France, 1 sur 4 à Paris.
Alors vous parliez des emplois détruits, on sait pourtant que les hôtels ont droit au chômage partiel à 100%.
Effectivement, mais il reste toujours des frais, hein, les congés payés par exemple. Mais ce qui pèse le plus, ce sont les loyers, une charge fixe écrasante. Alors selon nos informations, les professionnels ont soumis une idée à Bercy, diviser le montant par 3. Le propriétaire de l'hôtel verse un mois de loyer, le bailleur prend le suivant à sa charge et le troisième est payé par l'État. Une solution qui est en ce moment à l'étude.
Enquête signée Carole Ferry.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, on déplore 13 morts en lien possible avec le Covid, selon l'ARS, dans un EHPAD d'Oloron-Sainte-Marie, où avait été découvert un foyer épidémique il y a 3 semaines.
On voit un peu partout dans le monde le retour de mesures de restriction pour freiner la deuxième vague. En Israël, un deuxième confinement est en vigueur, on vous l'a raconté, il pourrait être prolongé.
Il faut dire qu'il y a 5 à 6 000 nouveaux cas par jour. Gwendoline Debono est la correspondante d'Europe 1 dans le pays. Elle a pu suivre une patrouille de l'armée israélienne qui fait même appel à ses réservistes.
Un pick-up de l'armée sillonne la ville arabe israélienne de Taïbé. Des militaires sont au volant, mais dans les haut-parleurs, c'est la voix de l'imam qui rappelle les gestes barrières. Au carrefour, des soldats israéliens distribuent des prospectus pour rappeler les consignes. La première d'entre elles explique ce commandant, c'est de ne pas se marier.
Notre plus gros problème, c'était les mariages. Ça a créé beaucoup de malades. Au début, les gens n'écoutaient pas, mais depuis qu'on les a interdits, il y a moins de malades ces 2 dernières semaines.
Dans la mairie transformée en centre de commandement, les chiffres n'incitent pas encore à l'optimisme. Le lieutenant-colonel Rapaport scrute un écran où les cas de Covid-19 s'affichent en temps réel.
On doit savoir qui est infecté. On appelle chacun d'entre eux pour qu'ils s'isolent. Mais c'est dur. On déploie beaucoup d'efforts. Et les cas augmentent.
Il y a d'autres zones rouges en Israël. Nous sommes à Bnei Brak où ne vivent que des juifs ultra-orthodoxes. Ici, les plus radicaux sont clairs. Ils méprisent toutes les consignes.
J'ai eu le virus, mais je ne respecte pas le confinement. On suit les règles de la Torah, pas celles de l'État.
Que faire, nous dit un gradé, quand la parole des autorités ne vaut rien face à celle des rabbins. À Taïbé et Bnei Brak, Gwendoline Debono, Europe 1.
En France, plus de 6000 PV électroniques dressés en un mois pour consommation de drogue. Selon le Figaro, il s'agit de l'amende forfaitaire de 200 euros, généralisée le 1er septembre pour simplifier le travail de la police. À elle seule, la Seine-Saint-Denis représente 11% des verbalisations, mais ce n'est que 2 amendes par jour dans ce département.
Le dossier Suez avance. Au terme d'un long conseil d'administration, Engie s'est dit favorable à l'offre de Veolia.
Emmanuel Dutheil, le rachat, pour autant, n'est pas encore validé à 100%.
Alors, officiellement, pas de triomphalisme hier soir chez Veolia, mais on reconnaissait dans l'entourage de la direction un vrai contentement, ou en tout cas un véritable soulagement de voir la victoire quasiment à portée de main. Veolia fait quand même une toute dernière concession. Le groupe accepte de repousser la date de fin de son offre au 5 octobre. Et là encore, on reconnaît en interne que c'est avant tout pour apaiser les relations avec Bercy. Le ministère de l'économie voulait donner un petit peu plus de temps à ce dossier. Et ce délai va aussi permettre de se donner une sorte de marge de manœuvre pour discuter un peu plus tranquillement avec Engie et Suez. Alors malgré tout, Suez ne s'avoue pas du tout vaincu. À la dernière minute, le groupe a même réussi à présenter hier une sorte de début d'offre, une offre jugée pas intéressante par Engie. On va l'améliorer dans les jours à venir, promet-on du côté de chez Suez. Mais plus que jamais, on s'oriente ce matin vers la création d'un nouveau numéro 1 mondial de la transition écologique.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Une catastrophe sociale dans le secteur aérien aux États-Unis. American Airlines va commencer à licencier aujourd'hui 19 000 de ses salariés. Sa concurrente United annonce le départ de 13 000 de ses personnels. Des suppressions d'emplois qui seraient annulées, affirment les deux compagnies, si les démocrates et les républicains au Congrès américain se mettaient d'accord sur une subvention de 25 milliards de dollars dans les prochains jours.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Le taxi volant, décollage commercial dans 10 ans. Et premier test en France dans quelques mois seulement.
Et puis le dernier Fuenkinos écrit un peu au hasard. Est-ce vrai? L'auteur va nous le dire.
A tout de suite sur Europe 1, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffry.
Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça fait longtemps qu'on en rêve, les voitures volantes. Première expérimentation en juin prochain d'un taxi volant sans pilote. Hier, en grande pompe, a été lancée une filière aérienne de mobilité urbaine sur l'aérodrome de Pontoise, Cormaillan-Vexin. Reportage d'Aurélien Fleureau.
Derrière nous, vous voyez le Volocity, qui est un véhicule électrique à décollage vertical. C'est un peu un mélange entre un hélicoptère et un drone.
Propulsé par ses 18 hélices et 9 petites batteries électriques, il volera à 110 km/h. Dans un premier temps, explique Fabien Nesman, porte-parole de Volocopter, il y aura un pilote et un passager avant l'étape suivante.
On va passer en mode automatisé dans des couloirs aériens dédiés aux taxis aériens. Là, il n'y aura plus de pilote, il y aura 2 passagers dans le véhicule.
Mais avant d'en arriver là, il faudra d'abord tester tout l'écosystème, explique Edward Arkwright, directeur général exécutif de Groupe ADP.
On va dépasser les photos, l'anticipation ou les films qu'on a tous vus. Et là, on va le tester en conditions réelles, avec une tour de contrôle, comment ça s'insère dans l'espace aérien, comment les riverains acceptent ces nouveaux objets, comment les procédures de sécurité sont respectées. Rendez-vous pour des premiers vols en juin prochain.
Autre partenaire partenaire du projet, la RATP, qui voit avec ses taxis volants une manière de se diversifier et d'innover. Et ce n'est pas de la science-fiction, rappelle sa présidente Catherine Guidoire.
Le but du jeu, c'est d'arriver à faire un démonstrateur pour les jeux. Moi, je pense que le moment où vous prendrez un ticket, si je peux dire, par Internet pour monter là-dedans, on est plutôt vers 2030. Mais c'est demain.
Selon Volocopter, un trajet de 15-20 minutes pour rallier le centre de Paris depuis l'aéroport de Roissy coûtera environ 70 euros.
La culture et David Foenkinos qui publie aujourd'hui son nouveau roman « La famille Martin » chez Gallimard. Un livre dont la genèse est une drôle d'histoire.
Oui, l'auteur en manque d'inspiration aurait choisi ses personnages au hasard, Nicolas Caro.
La vie est romanesque et David Foenkinos le prouve. Un jour, le voilà confronté à l'angoisse de la page blanche. Pas d'idée, pas d'inspiration. Alors, il décide de descendre dans la rue, d'aborder la première personne qu'il voit et de raconter sa vie dans son prochain livre.
Je suis tombé sur Madeleine Tricot, une femme de 82 ans. J'ai expliqué que voilà, j'avais envie de m'intéresser aux gens du quartier, de leur parler, si elle avait le temps de prendre un café. Elle a vu que j'étais pas un mythomane, elle savait que j'étais écrivain, elle me connaissait, elle m'avait déjà croisé dans le quartier et donc j'ai pu prendre un café avec elle.
À partir de là, tout s'enchaîne, il rencontre la fille de Madeleine, Valérie Martin, son mari et ses enfants et voilà la famille Martin transformée en personnage de roman. Évidemment, on se demande pendant tout le roman, mais est-ce que c'est vrai ?
Ce qui est très excitant, c'est que tous les premiers retours de lecture que j'ai tournent autour de la question de la réalité ou de la fiction. Tout le monde me demande si j'ai vraiment fait ça, si ces personnages existent vraiment. Et donc, c'est aussi un amusement pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est que, en très très grande partie, tout est vrai.
Mais David Foenkinos, c'est un romancier. On devine qu'ici et là, il a transformé le réel pour en faire du roman. Il pourrait faire sienne la phrase de Boris Vian. Tout est vrai parce que je l'ai inventé.
Nicolas Caro. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h. Il est 8h12.